Kevin, bon début d'hiver mouillé.
Oui, c'est ça. On comprend pas trop la météo aujourd'hui.
Non, effectivement, ben, il pleut, il neige, il fait frette, il fait gris. Bref, c'est la fin
Ce
d'automne.
matin, je suis sorti, je me suis dit, bon, je vais aller pelleter un peu, mais finalement, c'était de l'espèce de slush
Ouais.
plus mouillé qu'autre chose. Je poussais la neige, mais tu sais, c'était presque de l'eau que je poussais. C'était bizarre.
Oui. Mais bon, le froid s'en vient, le vrai froid s'en vient. D'ici peut-être une semaine ou deux, là, ça va être l'hiver pour de vrai. Ben, content, évidemment, comme toujours, de te retrouver là, pour un nouvel épisode de Rembobinage, bien entendu, votre balado podcast, ben oui, ça va très bien. C'est mon week-end, hein, ça paraît. Votre podcast cinéma, télévision, voilà. J'aimerais, en fait, il y a un peu une confession qu'il faut qu'on fasse. En tout cas, il y a une mise au point qu'il faut qu'on fasse. Je sais que ceux qui nous écoutent suivent rigoureusement le lore Rembobinage avec les références et les multivers et tout ça. Il y a eu le multivers des épisodes bonus. Il y a eu l'autre multivers des épisodes estivaux. Et là, on est inondé de courriels en disant, mais voyons, où est l'épisode 94? La lumière, tu éteins chez toi, tu
Oui,
quelque chose?
attends.
OK. Et bref, voilà, c'est peut-être des petits problèmes de production comme ça. Pendant que Kevin essaie de rallumer son ampoule, c'est pas grave, au pire, Kevin, évidemment, les gens ne nous voient pas, te voient pas dans le noir. C'est pas plus grave que ça. Non, dans tout ce décompte-là d'épisodes, on a sauté un. On a sauté l'épisode 94. Ça change pas grand-chose, clairement, mais voilà. Donc, on oublie un quelque part, c'est pas grave, on continue. L'important, évidemment, c'est les sujets des épisodes plutôt que le numéro de l'épisode en question. Donc voilà, fait qu'on reconnaît cette grave erreur. Est-ce que tu me pardonnes, Kevin, d'avoir mal compté?
Ah oui, je te pardonne. Je
Bon,
pourrais pas t'en vouloir.
notre amitié va survivre à ça.
Oui.
Excellent.
Donc, c'est
Donc,
ça. Fait que finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le 94 où on...
oh, ben écoute, c'est un nouvel épisode. On va quand même l'appeler. Je pense qu'on est rendu à 109. Appelons-le 109. De toute façon, le film dont on parle aujourd'hui, on aurait très bien pu, je pense, le faire à l'épisode 94 quand il était en salle. Et là, aujourd'hui, on en parle parce qu'il est disponible en vidéo sur demande, il est disponible en DVD Blu-ray, tout ça. Donc, il est rendu, bon, disponible au grand public. De quel film est-ce qu'on parle cette semaine, Kevin?
On parle de Oppenheimer, un des gros succès de l'année.
Effectivement, ben on se rappelle de Barbenheimer l'été passé avec le film de Barbie que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais c'est ça donc, Oppenheimer donc de Christopher Nolan qui raconte beaucoup de choses. D'ailleurs, gros film comme tu dis toi souvent grosse vue, beaucoup de sujets et on pourrait y revenir là tout à l'heure, bon 3 heures aussi quand même plus de 3 heures. Donc, très, très loin de notre 90 minutes réglementaires. Mais, clairement, ça aurait jamais pu être traité en 90 minutes. Est-ce que ça a été bien traité en 3 heures? Ça, c'est une question à laquelle on est en train de répondre tout à l'heure. Mais oui, Oppenheimer, ceux qui connaissent pas l'histoire américaine durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le nom du scientifique en chef, du chef du projet Manhattan. Ben évidemment, le côté scientifique, pas le côté militaire. Projet Manhattan, c'était le développement de la bombe atomique par les Américains, très largement à Los Alamos, donc dans le désert, je pense au Nevada, faut pas que je me trompe.
Nouveau-Mexique, je crois.
Nouveau-Mexique, voilà, tu as raison, Nouveau-Mexique. Donc c'est ça. Et c'est un personnage controversé. Bon, il y a des accointances chez les communistes dans les années 30, des accointances qui ont perduré là, par la suite durant ce qui était les tout débuts de la guerre froide. Bon, et donc c'est ça, Christopher Nolan a décidé de faire un biopic, pas complet bien sûr. Là, on s'intéresse évidemment à la période. Où bon, il devient scientifique reconnu, où justement il commence à travailler sur les questions de l'énergie atomique, et éventuellement donc va contribuer au développement de la bombe et ce qui suit après, donc un peu les débuts du maccartisme, la chasse aux sorcières communistes aux États-Unis, le début de la guerre froide, on l'a mentionné. Gros contrat. Est-ce que tu penses, toi, Kevin, que Nolan a respecté a rempli le contrat?
Ah oui, absolument. Selon moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je sais pas si c'est son meilleur film, mais c'est certainement dans ses deux, trois meilleurs films.
Ben écoute, je suis assez d'accord pour dire que c'est un... Ben, je sais pas si j'utiliserais chef-d'œuvre. Moi, je l'ai pas vu en IMAX, malheureusement. C'est un film qui a été fait pour IMAX. Donc, on voit très... Je voyais très bien quelles scènes dans le film sont destinées à être en très, très grand écran avec du son qui fait vibrer les sièges, là. Je l'ai vu ça sur un écran de 27 pouces, donc... C'est un peu moins flamboyant. Mais ceci étant dit, je trouve effectivement que c'est un grand film. Je pense que il y en a peut-être trop en 3 heures. Je pense que ça aurait peut-être mérité. C'est rare que je vais dire ça pour un film de 3 heures, mais j'en aurais pris un peu plus. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est un film qui est très très tassé, si on veut, très condensé. Même si ça dure 3 heures, encore une fois, mais c'est parce qu'il s'est passé énormément de choses, de rebondissements, tout ça, durant cette période-là. Mais oui, c'est un très, très bon film. Ben, j'aimerais tout de suite dire chapeau Cillian Murphy, qui tient le rôle principal d'un jeu extraordinaire.
Oui, vraiment, parce que, tu sais, c'est le personnage titre, il joue Oppenheimer, mais vraiment, pendant presque tout le film, on est toujours avec lui. Il y a quand même, on pourra en parler plus, il y a une portion en noir et blanc où qui est plutôt du point de vue du personnage de Robert Downey Jr., mais sinon, le film, toute la majorité du film qui est en couleur, c'est vraiment du point de vue de Oppenheimer. Et c'est quelqu'un qui est pas tout le temps en train de s'expliquer ou d'exprimer ses émotions. Souvent, c'est vraiment dans son regard, dans son expression faciale, vraiment, qu'on essaie de plus comprendre pourquoi il agit comme il agit, puis qu'est-ce qui se passe, parce que c'est un personnage assez fascinant, assez complexe.
Oui, ben tout à l'heure, je parlais qu'il y avait des accointances à l'époque avec le Parti communiste. En début de film, on nous parle entre autres du fait qu'il a contribué à aider les républicains en Espagne, donc les adversaires de Franco. À l'époque, bon, la guerre civile espagnole, c'est un sujet qui est très, très compliqué aussi. Donc largement, c'est ça. C'était les républicains qui étaient plus... social-démocrate, socialiste, communiste, un peu nébuleux, et évidemment les franquistes qui étaient fascistes. Et c'est ça, donc Oppenheimer contribue à aider la population civile. Bon, et on travers tout le film, c'est un peu ce qui va d'ailleurs torpiller sa carrière ultimement. On lui reproche finalement d'être trop communiste, trop pro-communiste, trop pro-URSS, ou en tout cas pas assez American, même si c'est un Américain de souche là. Donc tout ce jeu-là de loyauté en filigrane du film, là, même si on a justement le projet Manhattan, puis la course pour battre les Allemands, les nazis, pour développer une bombe nucléaire, je pense que ça s'articule surtout en fait autour de cette question-là de loyauté. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, ben c'est les deux volets du film. Tu sais, comme je disais, je vais plus l'expliquer. Le film alterne entre des séquences en couleur qui sont du point de vue d'Oppenheimer, que c'est beaucoup sa vie, tout ça, ce qui s'est passé à Los Alamos, qui est vraiment ce qui est marquant. Puis la partie en noir et blanc, qui est du point de vue de Robert Downey Jr., qu'à un certain moment, lui, c'est le président de la commission atomique américaine, puis éventuellement, il veut se joindre au cabinet du gouvernement américain, mais il passe par une espèce de commission avec des sénateurs pour voir si sa candidature va être approuvée, et l'histoire de Oppenheimer se trouve avoir un impact sur sa carrière politique. Et ce qu'on découvre peu à peu, c'est qu'il était impliqué dans le fait que, comme tu disais, Oppenheimer, après la guerre, a comme un peu été... il a perdu un peu sa crédibilité à cause qu'ils ont tout ressorti ses accointances avec des communistes, tout ça, puis essayer de faire comme si c'était pas un bon patriote, tout ça. Puis je pense que, tu sais, tu disais, est-ce qu'ils ont essayé d'en faire trop dans le film? c'est un, on peut en discuter, mais je trouve que c'est intéressant, justement, ça aurait été, entre guillemets, facile de juste faire un film sur la bombe atomique qui se passe seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça, c'est quand même, je dirais, au moins le tiers, si c'est pas la moitié du film, c'est vraiment la création de la bombe atomique et tout ça, que c'est... à Los Alamos par plein de scientifiques qui sont comme isolés dans un désert, tout ça, puis c'est super excitant, puis en même temps, c'est troublant parce qu'on sait les conséquences de Hiroshima puis Nagasaki, mais ce qui ajoute vraiment une autre dimension au film, c'est de tout le temps alterner avec ce qui s'est passé avant et surtout après la guerre et toute l'histoire... De la course de la chasse aux communistes, tout ça. Puis c'est comme, tu sais, moi je vois deux niveaux là-dessus. Je vois le niveau lui il a permis d'une certaine façon aux États-Unis de gagner la guerre. Bon, ça peut être discuté si c'était la bonne façon ou pas, mais il a comme été un peu rejeté par son pays. Mais il y a aussi toute la dimension que c'est comme si lui, dans le fond, il se sentait coupable d'avoir inventé la bombe atomique et d'avoir mené à ces catastrophes-là, à toutes ces morts-là, puis que le fait que de se faire rejeter de même et même humilier, c'est comme si il l'acceptait un peu comme un martyr pour dire « dans le fond, c'est ce que je mérite, je suis pas vraiment un héros ». Tu sais, je mérite d'être dans le fond de finir un peu dans l'ombre, là.
Oui, mais ça, tu vois, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans le film, c'est ce dilemme moral-là qui est présent pratiquement depuis les débuts là, du projet Manhattan. Parce que les scientifiques sont capables, dans les chercheurs là-dedans, d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est une époque où de nombreux scientifiques dont on connaît le nom parce qu'on a fait des cours de physique, de sciences au secondaire, au cégep, bon, peut-être même à l'université, des noms qu'on connaît, et ces gens-là sont dans le film. C'est l'époque où Einstein est encore vivant, Niels Bohr, évidemment, est encore vivant, à un moment donné, il y a Heisenberg, son fameux principe d'incertitude, bon, avec bref, des gens, des chercheurs, de grands génies scientifiques, et ces gens-là, évidemment, se connaissent, se rencontrent, se jasent. Je trouvais ça particulier quand même là, de dire, ah ben, tu sais, c'est à l'époque où tu travailles dans tel domaine, puis évidemment, il faut que tu sois quelqu'un de connu, puis d'assez brillant pour être un peu dans l'élite de tout ça, mais tu dis, ah ben, en fin de semaine, je vais aller luncher avec Albert Einstein, puis ça va être... c'est un peu particulier quand même. Mais oui, c'est ça. Donc, le dilemme moral est assez bien expliqué. Et surtout qu'à un moment donné, il y a une crainte, il y a un des chercheurs qui arrive et dit « J'ai fait des calculs. Si on déclenche une réaction de fission nucléaire, on pourrait la réaction ne pourrait jamais s'arrêter. » Donc, le concept, bon, on fera pas de cours de physique, là, mais le concept de la fission nucléaire, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on bombarde un noyau dans ce cas-là d'uranium ou de plutonium, bon, avec des particules, et éventuellement, ça fait en sorte que le noyau éclate en libérant à son tour des particules qui peuvent aller faire éclater d'autres noyaux, et ça produit de l'énergie qui peut être utilisée pour faire de la chaleur, donc fonctionner un réacteur atomique, bon, pour créer de l'électricité, mais dans le contexte du projet Manhattan, c'est évidemment pour faire une explosion titanesque, donc une arme nucléaire. Donc, c'est ça. Et ils savent que très rapidement, quand ils apprennent que, bon, on était capable de faire la fission de l'atome avant la guerre, ou peut-être même pendant la guerre, je ne sais pas exactement quand ça se produit, mais très rapidement, ils disent, ben OK, ben on peut faire une bombe. Ultimement, on peut, avec un développement technologique suffisant, on peut faire une arme contre nos ennemis. Donc, presque immédiatement, c'est est-ce que c'est moralement c'est correct de faire ça? Et la réponse que ces scientifiques se donnent eux-mêmes un peu, c'est ben si on le fait pas, ça va être les nazis qui vont le faire puis vont l'utiliser contre nous. Donc c'est ça. Et puis éventuellement, bon, ça, on en arrive à la question des bombes à hydrogène, des bombes dont la force, la puissance se chiffre en mégatonnes, des bombes thermonucléaires. Bon, ça, c'est vraiment les plus fortes ogives qui existent. et avec des millions de morts éventuellement, puis bon, à un point tel que ça peut mener, bon, comme ça pourrait le faire aujourd'hui, si quelqu'un à Washington ou à Moscou décide d'appuyer sur le bouton rouge, ben la race humaine s'éteint. Donc, c'est tu sais, c'est pas juste avoir un peu plus de morts ou la guerre va être un peu plus facile. Non, non, c'est on détruit la vie sur la planète au complet en quelques heures, là. Donc, il y a tout ça derrière, puis je trouvais que c'était quand même... C'était bien amené, sans tomber dans les grosses considérations. T'sais, on n'est pas, c'est pas un film de 3 heures de philosophie, ou d'éthique, ou de la moralité de la guerre nucléaire. C'est un film qui parle d'une découverte scientifique, d'un développement scientifique, mais qui donne, justement, de la place à ce questionnement-là. Puis je peux bien honnêtement, si j'étais à la place de Ben Hammer, moi aussi, je serais rongé par le doute et le remords et tout ça. Surtout quand on sait là, ce que ça a fait, évidemment, à Hiroshima et Nagasaki. Là, je pense 200 000 morts au moins là, avec les années. Donc, plus les cas de cancer et tout ça, puis les effets horribles de la radiation. Bref, je parle beaucoup. mais c'est un film qui, je pense, amène à ce genre de discussion-là, ça nous ramène cette question-là qui n'a jamais été réglée de est-ce que c'est moral d'avoir développé l'arme nucléaire?
Oui, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a ça, mais il y a comme plein d'autres affaires dans le sens que il y a... Puis aussi, je pense, tu disais que c'est pas non plus un exposé de philosophie de 4 heures, que c'est juste ça. Tu sais, même si, tu sais, il y a toute la dimension scientifique, que même si on connaît pas la chimie, la physique, ou même la mécanique quantique ou tout ça, moi, j'ai vraiment pas étudié en sciences, fait que je connais pas grand chose à ça, mais je trouve que le film est habile à vulgariser autant la science que la politique, l'histoire, les questions éthiques. Puis en même temps, à travers tout ça, il y a une histoire humaine, il y a l'histoire du mariage d'Oppenheimer, puis il y a aussi sa maîtresse communiste, il y a tout ça qui est raconté. Il y a aussi, c'est un peu un thriller d'espionnage, parce que à travers tout le film, il y a la question de est-ce que les Soviétiques ont un espion à Los Alamos qui est en train de prendre des informations, tout ça, sur le développement de la bombe atomique et éventuellement de la bombe à hydrogène, tout ça. Puis, fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de niveaux dans le film. Puis, tu sais, je trouve que des fois, quand tu te dis, bon, ce film est un biopic, c'est un drame biographique, tu t'attends à quelque chose d'un peu conventionnel, un peu beige, un peu plate, mais Christopher Nolan, c'est vraiment quelqu'un qui pense en termes de cinéma, qui pense en termes de grand écran, d'écran géant. Il a tourné son film en IMAX, puis lui, vraiment, il veut donner, autant qu'il raconte un drame biographique, il veut vraiment donner un spectacle. Donc, visuellement, le film, même si c'est presque juste des scènes de dialogue, il y a tout le temps des éléments visuels d'explosion ou d'implosion ou de d'étoiles ou d'atomes et tout ça qui est en filigrane à travers tout le film, qu'on est tout le temps sur le bord de... On a tout le temps l'impression que tout va exploser, que ça soit littéralement ou de façon figurée. Et aussi, il faut absolument que je mentionne la musique de Ludwig Göransson, que j'ai... Moi, j'adore la musique qu'il a fait dans ce film-là. Depuis que moi j'avais vu le film 2 fois en salle, dont en IMAX, quand c'est sorti en juillet, puis depuis j'écoute pratiquement à chaque jour, j'écoute la trame sonore, j'écoute ça en travaillant, j'ai l'impression que c'est super important ce que je fais là, quand j'ai un deadline, je suis comme ok, il faut que je crée la bombe atomique à travers mon travail. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, la musique de Ludwig Göransson. Pratiquement de la première seconde du film au dernier moment, il y a toujours ou presque de la musique, puis c'est une musique vraiment intense, puis avec qui crée vraiment quelque chose, un sentiment de ce film-là, que il y a aucune scène de ce film-là qu'on est comme « Ah, OK, ça, c'est une scène un peu plate, il se passe rien, il n'y a pas d'enjeu. » On a tout le temps l'impression que tout est super urgent et important.
Oui, absolument. Puis bon, on voit le côté On le dit depuis le début, Oppenheimer, c'est un personnage complexe, il y a des failles, pas l'air d'être un très bon père de famille, pas l'air d'être un très bon conjoint, pas toujours dire si c'est la norme de l'époque, peut-être, là, dans les années 40. Puis bon, je peux comprendre aussi que si ta job de jour, c'est de créer une arme atomique puis de le faire assez vite pour éviter que les nazis t'en larguent une sur la tête, peut-être que tu vas être un peu stressé et tu vas rentrer à la maison en étant un peu fatigué, en étant peut-être pas 100% là pour ta famille. Bon, mais on explore tout ça, comme tu disais. Bon, on t'a parlé de sa maîtresse. Il y a ça aussi. C'est un homme qui est vraiment, bon, tu sais, il veut être loyal envers les États-Unis, mais en même temps, sans être pro-soviétique, se dit, bon, ben, clairement, il doit se dire que la social-démocratie, l'entraide, ça ne doit pas être une mauvaise chose. Bon, donc, il y a tout ça. Je vais revenir rapidement sur Ludvig Göransson, parce que, bon, son nom me disait quelque chose. Puis, évidemment, j'allais googler, puis bien sûr, ça m'est revenu tout de suite. Ben, il a fait beaucoup de films, il a fait beaucoup, beaucoup de trames sonores. Mm-hmm. Entre autres, bon, Creed, ouais. Des films que t'aimes beaucoup. Mais pour les gens qui sont plus science-fiction comme moi, qui sont plus Star Wars, c'est celui qui fait la bande sonore de Mandalorian. Donc, l'excellente bande sonore de Mandalorian, c'est lui. Donc, c'est ça qui nous avait... Moi, je me souviens la première fois, bon, qu'il y avait... On avait entendu ça, puis on se disait, c'est pas John Williams, c'est pas très... ça n'a pas l'air d'être pris des planètes de Holt, qu'est-ce qui se passe? On nous sort... Bon, ça, c'est une référence un peu nichée de la musique classique. Mais bref... c'était vraiment différent et ça marchait super bien. Puis dans ce cas-ci, tu sais, on aurait pu avoir Christopher Nolan, nous aurait pu prendre quelqu'un, justement, comme Williams ou comme, bon, avec qui il travaille. Il travaille avec quelqu'un d'habitude.
Hans Zimmer a fait beaucoup de musique pour Christopher Nolan.
C'est ça, donc il aurait pu aller voir Zimmer puis lui dire, t'as-tu envie de faire du brrrr? Tu sais, bon, ça aurait pu être ça aussi. Ça aurait tout à fait fonctionné. Mais comme tu le mentionnes, Göransson fait un très, très bon travail et c'est juste assez différent pour qu'on s'en rappelle. Parce que des fois, il y a des musiques de films, c'est super générique. Mais c'est ça. Dans ce cas-ci, c'est pas trop... Ça clash pas avec le film. Il n'y a pas du meringue. En tout cas, c'est pas, on n'est pas dans le cha-cha-cha pendant qu'ils discutent de bombes nucléaires. Là. mais c'est ça. C'est juste assez présent pour qu'on se dise... OK, il y a une couche de plus, il y a une couche musicale, ça vient nous chercher. Tout à l'heure, tu sais, quand je disais, il y avait peut-être trop de choses dans ce film-là, puis je suis pas en train de dire que j'ai pas apprécié ça, puis je suis pas en train de dire non plus nécessairement que j'aurais pris un montage allégé, mais je vois le film comme ayant trois parties. Peut-être pas de longueur égale, mais ça aurait quasiment pu faire trois films ou trois téléfilms ou quelque chose comme ça. T'sais, bon, ces premières années où justement il découvre, il fait quasiment des rêves éveillés de particules puis tout ça, puis c'est justement il rencontre ses amis qui sont un peu communistes, puis là il commence à faire sa place. Le développement de la bombe à Los Alamos et après ça supposément la chasse aux sorcières avec justement le noir et blanc, puis ça fait très film des années 50 un peu, tu sais, de dire bon, les méchants communistes se cachent dans l'appareil gouvernemental américain, puis là faut les débusquer. D'ailleurs, le traitement d'Oppenheimer, bon, c'est pas aussi pire peut-être que d'autres choses, mais ça m'a fait penser à Alan Turing un peu.
Je sais pas si le film qu'il avait eu sur sa vie.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Pas nécessairement le film qu'il y a eu sur la vie d'Alan Turing, pas nécessairement Imitation's Game, mais le traitement de ces scientifiques-là.
OK, tu veux dire dans le sens de comment il n'a pas été respecté. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire.
Ben, je veux dire, Oppenheimer, moins d'informations contraires, n'était pas homosexuel comme Alan Turing. Là. Mais bon, qu'est-ce qui était pire dans les années 50, être homosexuel ou être communiste? On n'a pas la réponse à cette question-là. Mais c'est ça, c'est l'histoire, tu sais, bon, de gens connus, importants, qui, après avoir accompli leur grande tâche dans un contexte de guerre mondiale, ont été jetés comme ça au caniveau, pratiquement. On a essayé de les effacer de l'histoire puis de les humilier, comme tu mentionnais tantôt. Donc, je trouve ça quand même assez particulier que des deux bords de l'Atlantique, on ait cette espèce de traitement-là des grandes têtes pensantes dont, justement, la contribution a été essentielle là, à l'effort de guerre. J'aimerais t'entendre peut-être sur, justement, Robert Downey Jr., t'en as parlé quelques fois. Comment t'as trouvé son personnage?
Le personnage est vraiment intéressant. Puis au début du film, on se demande pourquoi il est aussi présent. Et finalement, éventuellement, pour les raisons que j'ai expliquées un peu, on voit que toute la partie avec Robert Downey Jr., c'est presque aussi important que seulement Oppenheimer, parce que c'est vraiment... pour comme je disais, pour montrer justement, puis tu venais aussi de dire que après la guerre, dans le fond, au lieu d'être honoré, il a comme été jeté de côté, tu sais, il a pas eu la carrière peut-être qu'il aurait mérité, il s'est pas rendu en politique ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, on connaît beaucoup ces dernières années Robert Downey Jr. pour avoir joué Iron Man dans plein de films des Avengers, tout ça, puis ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans autre chose qu'un film de super-héros, dans un drame sérieux. Puis moi, ça m'a rappelé que waouh, c'est vraiment un super bon acteur. Il est super convaincant. Puis tu sais, c'est son personnage, c'est un peu quelqu'un qui est un peu dans la séduction, mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de pas correct, de pas nécessairement louche, mais de quelqu'un qui est quand même manipulateur, puis que qui est peut-être pas une super bonne personne, puis Downey Jr., il rend tout ça très bien. Puis aussi, je voulais mentionner que, tu sais, on parle des acteurs, je pense j'ai rarement vu un film où il y a autant d'acteurs connus. Ouais. Il y en a, je pense, des dizaines, mais moi, j'ai une théorie là-dessus que, vu que le film est tellement riche et complexe, il y a tellement de dizaines, justement, de personnages. Je pense que si c'était pas des acteurs connus, un moment donné, on serait mélangé, on saurait plus qui est qui. Mm-hmm. Tandis que là, en tout cas, moi, ça faisait ça. Au début du film, mettons, on rencontre Kenneth Branagh. Fait que quand il revient une heure et demie plus tard, si ça avait été un inconnu, j'aurais peut-être fait « OK, c'est qui lui? » Mais tandis que vu que c'est Kenneth Branagh, c'est comme « Ah oui, Kenneth Branagh, celui qu'on a vu en conférence au début, il est de retour, OK, je comprends. » Puis, tu sais, on va pas toutes les nommer, mais il y a Matt Damon, il y a Josh Hartnett dans le film, il y a Jason Clarke, il y a Rami Malek, il y a vraiment plein de monde, là.
Oui, absolument. Puis Emily Blunt aussi, qui fait la femme d'Oppenheimer, qui a un rôle là-dedans de femme à la fois, tu sais ça, qui va épauler son mari, mais en même temps, tu vois qu'elle a ses propres ambitions, puis tout. Pendant toute l'espèce de chasse aux sorcières, où Oppenheimer va subir une espèce de semi-faux procès à huis clos, elle est là, puis elle dit « Tu dois te battre, tu dois pas justement pas te laisser transformer en martyr. Tu sais, bats-toi. » Puis, bon, elle est alcoolique aussi. Ça, ça vient jouer sur son personnage. Je parle de personnage, non pas de l'actrice. Je connais pas, là. Mais donc, ça, tous les grands personnages là-dedans ont une profondeur vraiment intéressante. Même Matt Damon, qui a l'air de jouer le général le plus ordinaire de l'armée américaine, tu vois que sous sa couche, sur son vernis, il y a quelque chose d'autre. Il y a aussi la frustration, il y a un peu d'ambition. Bon, Downey Jr., c'est ça, tu me mentionnais, manipulateur, est ambitieux. Florence Pugh, qui n'est pas là très longtemps, qui fait la maîtresse communiste.
C'est quand même un rôle mémorable.
Oui, absolument, mais je pense que, tu sais, quand je disais tout à l'heure, j'en avais pris un peu plus encore. Je pense que ça aurait pu être, bon, exploration un peu plus poussée, peut-être, de ce personnage-là. Je regarde rapidement là, la liste, effectivement, de la distribution, puis il y en a. Ah, c'est ça, je cherchais parce qu'il y a une très courte scène avec Harry Truman, le président américain, qui va prendre la place de Roosevelt quand Roosevelt va mourir. C'est Truman qui va autoriser le bombardement nucléaire de Hiroshima et Nagasaki. Et je me disais, est-ce que c'est Gary Oldman? Mm-hmm. Et c'est Gary Oldman dans un rôle qui fait pas du tout d'habitude, c'est pas son genre de rôle. Il y a quasiment l'air du colonel Sanders. C'est vraiment... Effectivement, t'écoutes le film et tu dis « Hey, c'est un tel! Hey, c'est un tel! » Puis ça... Effectivement, il y a pas... Ça arrête pas. Sans cesse, c'est des nouvelles... Ben, des têtes connues, mais tu sais, ça... Justement, comme tu disais, il y a tellement de monde que tu mets un inconnu, j'aurais pas pu nécessairement me rappeler que tel sénateur, c'était... bon, tu sais, telle autre personne... qu'on a vu il y a 45 minutes ou une heure, comme tu le mentionnais. Là. Il y a des petits clins d'œil aussi que j'ai aimés, parce que bon, c'est clairement basé sur des faits vécus. Petite mention de John F. Kennedy à la fin. Mm-hmm. Ça aussi. Puis tu sais que, OK, il y a des choses déjà, tu sais, c'est l'histoire est en marche. Puis Kennedy, justement, est héros de guerre à l'époque déjà. Puis il va devenir un jeune sénateur, mais là, on sait bien qu'il va devenir président assez rapidement. Puis qu'il va être ne sera plus président aussi assez rapidement, là, ça, par la force des choses.
Mais c'est drôle, on enregistre l'épisode le 22 novembre. Ça fait exactement 60 ans voilà. Aujourd'hui que le président Kennedy a été assassiné.
Oui, c'est pas fait exprès.
Mais, non, c'est ça, c'est vraiment un hasard.
C'est vraiment un hasard. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as peut-être moins aimé dans Panama?
Non, moi c'est je l'ai vu deux fois en salle, comme je disais, je l'ai revu en Blu-ray hier soir, puis même si c'est sûr que l'expérience avec l'écran et le son IMAX, c'est l'expérience optimale, mais même sur ma télé, j'ai trouvé que c'est un film qui est vraiment captivant du début à la fin, qui est vraiment immersif, spectaculaire, comme je disais, qui a vraiment quelque chose de... Autant que je pense que c'est un scénario béton qui est intéressant, puis avec plein de thèmes dont on a parlé, qui sont explorés, juste la musique, puis visuellement, moi, c'est un film que je me tanne pas d'écouter. Là.
Moi, je te dirais, sur le film comme tel, moi, je l'ai dit, j'en aurais pris plus, mais bon, ça, c'est pas un reproche nécessairement. Là. J'ai pas l'impression non plus qu'on me livre pas assez d'informations. C'est peut-être juste qu'on livre beaucoup d'informations, puis qu'encore une fois, on aurait pu peut-être creuser davantage certains aspects. Non, ce qui m'a agacé un peu, c'est pas dans le film, c'est ce qui a pas été mis dans le film, en fait. J'ai lu... très brièvement, il faudrait vraiment qu'on fouille davantage là-dessus, mais quand ils parlent de Los Alamos au début, quand ils vont sélectionner le site, personnage de Panama dit « Ah, il y a quelques autochtones », nous autres disent « Indians », mais bon, clairement, c'est pas des Indiens, là. Des autochtones qui utilisent le site pour des rituels. Puis à la fin, il dit à un moment donné, il se fait poser la question, qu'est-ce qu'on devrait faire avec Los Alamos? Ah, vous devriez le redonner aux autochtones. Puis là, évidemment, ça scandalise. D'ailleurs, je pense que c'est pendant sa rencontre avec le président Truman, là, ça scandalise tout le monde. Il dit, non, ben, on va développer le complexe, puis faut faire plus de bombes, parce que là, les Soviétiques ont la bombe, puis pour avoir la bombe, puis nanana, bon. Et ce que j'ai lu en ligne, faut prendre ça peut-être avec un petit grain de sel de, on voit ça sur Twitter, mais, c'est qu'il existait, il y avait des gens, il y avait des membres des Premières Nations qui vivaient sur le site. Pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, je pense quelques centaines. Évidemment, c'est un site très, très vaste, là. Mais il y a des gens qui vivaient là. Et ces gens-là ont été expulsés, littéralement manu militari par l'armée américaine. Et semble-t-il que non seulement ils ont été expulsés à 24 ou 48 heures de préavis, mais les hommes du groupe ont eu des jobs. On s'en ferait des emplois à Los Alamos, mais pour manipuler du matériel radioactif, entre autres, il n'y avait pas de protection. Donc, semble-t-il que tous les hommes de ce groupe-là, des gens qui ont eu un poste, sont morts des suites des radiations, donc pour avoir été exposés au matériel radioactif. Et c'est jamais mentionné. Encore une fois, peut-être que c'est pas exactement ça qui s'est passé, mais... j'aurais peut-être aimé ça qu'on fasse, que le film prenne... C'est sûr que c'est pas un film disant les Américains ont fait des horreurs envers les Premières Nations. Malheureusement, ça, c'est on le sait. Là. mais je pense que ça aurait mérité.
Ouais, mais moi, ce que je répondrais à ça, c'est une critique qu'il y a eu beaucoup du film, c'est qu'on voit pas les explosions au Japon.
Ouais.
Mais ce que je pense, c'est Nolan lui-même qui répondait, c'est que vu que son film est du point de vue de Oppenheimer, puis que on est tout le temps collé sur lui, Oppenheimer, il est pas allé au Japon. Il a juste entendu à la radio qu'il y avait eu les bombes qui avaient explosé. Donc, on voit pas ce qui se passe au Japon. Puis de la même façon, l'histoire avec les Autochtones, tout ça, si, mettons qu'on assume qu'il était pas vraiment au courant de tout ça, ben, si on fait un film qui est de son point de vue, ben, ça aurait été un peu extérieur à lui de faire une parenthèse pour expliquer ça. Je
peux comprendre. Puis comme je te dis, ça enlève rien au film. Mais tu sais, c'est souvent, on aime ça gommer les parties de l'histoire qu'on n'aime pas. Et c'est facile de dire dans un film, ben je passerai pas 20 minutes à parler du traitement horrible des Premières Nations s'il faut que je montre à quel point cet homme-là était un héros, puis à quel point, même si c'est un héros complexe, là, mais je veux dire, il est quand même dépeint dans une lumière favorable.
Discutable, je sais pas. Je pense que le film est un peu neutre dans la façon de le montrer. T'sais, on voit que, oui, il a accompli des choses, mais une grande partie du film, c'est de montrer que, dans le fond, il regrettait un peu, puis ça a des conséquences vraiment horribles qui vont peut-être éventuellement mener à la fin du monde. Fait que, dans le fond, je pense pas que... Je finis pas d'écouter ce film-là en me disant « Wow, quel héros qui a rendu le monde meilleur. »
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dis « Ok, il fait son devoir d'Américain pendant la guerre en se disant, avec l'argument que si on le fait pas, les nazis vont le faire avant nous autres, puis ils vont nous bombarder avec une arme nucléaire. » Puis là, tout de suite après, il dit « Ah, ben là, il y a des remords, puis il y a des doutes, puis tout ça. » Donc, je suis pas en train de dire qu'il est présenté comme un Américain que si tu fais une petite entaille à la main puis il commence à saigner, ça saigne bleu, blanc, rouge. Là. C'est pas ça du tout. Mais c'est quand même plus, en un sens, un peu plus favorable que défavorable dans ce sens-là. Mais bon.
Je pense que, par définition, quand on adopte le point de vue de quelqu'un, en tant que spectateur, on a de l'empathie, puis donc, même si c'est un personnage complexe qui est pas un héros, ben on s'identifie un peu à lui, puis on est comme un peu, entre guillemets, de son bord. Mm-hmm. Mais je pense pas que le film est en train de nous dire qu'il y avait rien à se faire reprocher.
Non, c'est pas du tout ce que j'avance non plus, mais c'est drôle, ça me fait penser, puis c'est vraiment un autre sujet, mais dans la série Andor, il y a un personnage qu'on suit pendant plusieurs épisodes qui est une responsable des services de sécurité de l'Empire Galactique. C'est pas une bonne personne. Elle fait torturer du monde, elle fait exécuter des gens, elle est cruelle, elle est froide, une impériale, elle est pas fine. Mais, comme on la suit pendant plusieurs épisodes, on veut être un peu de son bord, puis de dire... en plus, surtout que c'est une femme dans un monde d'hommes, on se dit « you go girl », mais en même temps, non. On veut pas que ça se passe. Et même l'actrice qui disait « prenez pas pour elle, là, c'est pas...
» Non, mais ça fait souvent ça, comme... Tu sais, l'exemple classique que le film « Psycho » de Hitchcock... Pendant toute la deuxième partie du film, on suit Norman Bates, qui est un tueur en série. Mais vu que le cinéma, c'est une machine à empathie, on se retrouve un peu à prendre pour Norman Bates, dans le sens qu'on veut pas qu'il se fasse pogner, tu sais. Fait que c'est vraiment bizarre, ce phénomène-là, que personne est pour les tueurs en série, mais vu que ça devient le protagoniste du film, on est comme « Ah, oh, OK, non, faut pas qu'il se fasse pogner. » Tu sais, c'est vraiment bizarre. Non,
c'est particulier, effectivement. J'imagine, sans surprise, de tout ce qu'on a donné comme éloge depuis le début de l'épisode, que tu recommandes Oppenheimer?
Oui, je recommande fortement. Je pense que... de pas mal tous les avis, certainement du mien, c'est un des grands films de 2023, un des films qu'il faut absolument voir. Il y a des chances que vous l'ayez déjà vu. Le film a fait presque 1 milliard au box-office, ce qui est incroyable pour un drame biographique de 3 heures, là, avec un acteur principal qui est pas nécessairement, tu sais, c'est pas Tom Cruise, là, c'est pas une superstar, là. Donc, non, c'est vraiment un des films incontournables de l'année, là.
Ben, en même temps, bon, il y a le côté Barbie aussi, là, que les gens, ça a certainement contribué, là, d'avoir, les gens qui disaient vont voir Barbie et Oppenheimer, mais bon, coup de pub nonobstant, effectivement, c'est intéressant de voir des grands films, grands dans le sens, bon, grande envergure, grand déploiement, tout ça, des films de ce genre-là qui sont pas non plus, si on parlait de Daniel Jr. puis ses rôles de Iron Man. Oppenheimer, évidemment, c'est pas un film de super-héros. Il y a pas de c'est pas 90% d'écran vert avec des effets spéciaux par-dessus. Évidemment, il y a des effets spéciaux parce que tu peux pas, on va pas recréer une bombe nucléaire en studio, s'il vous plaît. Ça serait, un, c'est extrêmement dangereux, puis deux, évidemment, c'est excessivement illégal.
mais je sais pas si c'est vrai, mais Nolan, me semble, il a dit qu'il n'y avait aucun CGI dans son film, que les explosions, tu sais, c'est pas des explosions nucléaires, bien sûr, mais c'est des petites explosions qui sont filmées pour avoir l'air gigantesque ou des trucs du genre. Okay. Tu sais, il y a un peu de gars des vues, il y a des illusions, mais supposément que c'est pas du CGI.
Ben, écoute, je suis content. Nolan a toujours été quelqu'un qui, je pense, essaie le plus possible d'avoir des vrais effets spéciaux plutôt que de passer par ordinateur. Je me souviens dans Inception, je sais pas si t'avais vu ça, la fameuse scène où il se bat dans un corridor d'hôtel et là, la gravité change. Nolan avait fait construire un corridor sur un système de qui pivotait et les acteurs devaient juste sauter d'avoir la chorégraphie, finalement, prendre la chorégraphie pour sauter du bon bord du corridor pour pas se péter la tête, là. Quand j'ai su ça, j'ai comme, c'est un génie, là. Il y a quelque chose, t'as pas de cordes, t'as pas besoin d'artifice. C'est vraiment, en fait, tout ton décor est un artifice complet et c'est complètement fou. Donc, ça m'étonne pas que Nolan soit passé par là, là, pour arriver à ses fins. Ben, écoute, Kevin, merci beaucoup d'avoir réécouté Oppenheimer.
Une troisième fois, ouais.
Voilà, exactement. Pour en parler avec moi, bien sûr, moi, c'était mon premier visionnement, mais c'est ça, c'est une expérience très, très, très intéressante. Je le mentionnais la semaine dernière, et je vais le mentionner encore une fois aujourd'hui, notre palmarès de fin d'année s'en vient. En fait, il reste à peu près 3 semaines pour pieuvre. Vers la fin de l'année, généralement, on tombe en vacances, entre guillemets, vers la mi-décembre. Donc, cette année, ça tombe bien, c'est littéralement la mi-décembre, donc le 15, vendredi 15, ça va être notre dernière journée de publication. Bien sûr, il y aura l'infolette le samedi, mais c'est ça. Pour les contenus, les nouveaux contenus, ça va s'arrêter le 15. On va reprendre au début janvier. Et ça veut dire que, bon, comme je mentionnais, toi et moi, on va se parler très, très bientôt pour notre top 10 de l'année. Je peux déjà dire qu'Oppenheimer va être dans mon top 10.
Moi aussi, il y a de très bonnes chances, disons.
Voilà. Autrement, ben, écoutez, on se retrouve très bientôt, comme je le mentionnais. Si vous voulez écouter en attendant les 107, 108, 109, on ne sait plus trop, épisodes de Rembobinage, ça fait beaucoup quand même, ça commence à faire beaucoup. Je ne suis pas sûr que vous allez avoir le temps de vous rendre avant notre prochain épisode. Mais si vous voulez essayer, tout ça, c'est sur pieuvre.ca, bien sûr. On est sur Spotify, Apple Podcasts également. Avant de vous laisser, comme toujours, notre page Facebook est accessible. Donc, pour des bandes-annonces, pour nos critiques écrites, pour ce qui nous passe par la tête, des fois, on se parle comme ça, on parle de cinéma, de télé. Pour, bien sûr, nos épisodes, bien sûr, si vous voulez passer par là pour aller les écouter. Et, bien entendu, on a toujours notre excellente infolette hebdomadaire. Ça comprend tous nos contenus, donc tout ce qui est sur Pieuvre, les contenus écrits, les articles, les critiques, bien sûr, les épisodes de podcast. C'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Vous allez sur le site pour vous inscrire. Ça prend quelques secondes. Et comme je mentionnais, c'est livré les samedis. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.